Laurent est Larsen Darif, qui est islamologue, spécialiste du droit et de la théologie de l'islam médiéval. Il est actuellement ingénieur de recherche à l'université Lyon 2. Je suis d'ailleurs très heureux d'avoir pu le recruter au sein de notre université. Et il est rattaché au SIAM. Il a donc travaillé sur la pensée religieuse andalite, une thèse d'ailleurs, il vale entre traditionnisme et droit légal, étude sur le statut d'un juriste à Londres de la 16 en 2004. Mais il a une autre particularité, il est aussi papyrologue et spécialiste dans le déchiffrement des documents légaux médiévaux. Alors parmi ses nombreux travaux, je citerai juste un travail qui est en lien avec la sacralité du Coran, citation coranique probablement erronée dans la plus ancienne lettre datée d'Égypte, qui a été publiée dans la revue Arabica en 2015. Son intervention s'intitule « La langue du Coran entre sacralité pardon, de la langue et sacralité du sens ». Jeanne Larsen, je vous laisse, vous avez 20 minutes donc au maximum. Merci encore.
Merci à tous. Et je vous montre ce que ça règle pas. La langue du Coran entre sacralité de la lettre et sacralité du sens. Je commence d'abord par ce passage, quelque part dans les dédales d'une petite mosquée d'un des villages de la plaine du Sous, au sud du Maroc. Deux grands pieux savants spécialistes des lectures du Coran hâtaient le pas en direction de la sortie. L'un, susurré à l'autre, presse donc le pas avant que le toit ne me tombe sur la tête. Une erreur de ces trompeurs est largement suffisante pour s'attirer la colère de Dieu sur ses lieux. Ils étaient de passage pour une simple inspection de routine à l'invitation du cheikh de la mosquée locale afin qu'elle jette un œil à la planche de bois d'un des élèves assidus de ce dernier. Dans cette planche était retranscrite sous la dictée du cheikh, le deuxième quart du Hizb, le 30e, le Hizb, équivalent à 1/60 du Coran, renfermant le verset 19 de la 18e sourate, la caverne, Al-Kahf. La raison pour laquelle ils ont hâté le pas pour s'assurer d'être au plus vite hors de l'enceinte de la médersa attenante à la mosquée était une erreur de vocalisation dans la planche de l'élève. Au lieu de Fab'athou ahadakum biwaraqikum biwariqikum hadhi, envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre monnaie qu'en voici, il est écrit biwaraqikum hadhi, avec vos feuilles que voici. Cela se passait ainsi fin du 19e siècle, début du 20e siècle, alors que nous vivons même du prophète, le Coran, d'après les sources spécialisées, était lu et récité par les compagnons de celui-ci avec des variantes qui n'épargnaient pas l'aspect formel du texte. Voici quelques planches de bois qui servent encore de support à l'apprentissage du Coran en Maroc. Les récits qui ne sont pas venus dans ces sources consacrées aux lectures du Coran, de Tirahat au Coran, nous rapportent que les compagnons récitaient certaines sourates ou versets du Coran, parfois à la demande du prophète lui-même, en usant des termes et d'expressions légèrement, voire totalement différentes. Ainsi, un mot est vite remplacé par un autre, une expression idiomatique était d'une région par une autre au gré des aires culturelles et linguistiques des compagnies, sans que cette situation ait suscité de la part du prophète des réactions quant à la sacralité du Coran. Et telle qu'elle sera envisagée plus tard dans la communauté des compagnons et notamment des successeurs tabiouns. La notion de sacralité était alors dans sa phase incorative. Les exemples de lecture coranique considérés comme hétérodoxes depuis l'instauration de la Vulgate othmanienne sont légion dans les sources narratives et aussi dans les sources autobiographiques des sciences des lectures du Coran. En effet, il faut garder à l'esprit que les œuvres qui relatent les lectures coraniques abandonnées ou dites excentriques, les chers, les shawab, l'histoire de la collecte du Coran et de sa constitution en codex, ainsi que la science de la divergence des lectures du Coran, l'Ikhtilaf al-Qur'an, étaient abondantes au cours des quatre premier siècle de l'islam. D'après les spécialistes des sciences coraniques, comme Amr ad-Dahmi, 5e siècle, de l'Égypte, le 11e, Ibn al-Jazari, le 9e, le 15e. Les œuvres traitant de ce sujet sont comptées par centaines, dont ne les est parvenu, hélas, qu'à peine une dizaine. La plus célèbre et la plus souvent citée de ces œuvres à en devenir la source incontournable en raison de sa date reculée est l'ouvrage de Abdallah ibn Abi Daoud, Al-Sijistan, le Kitab al-Masahif, le livre des codex. Cependant, c'était dans une toute autre perspective que le milieu traditionniste a fait circuler plusieurs hadiths dans lesquels le prophète cautionne une lecture du Coran à plusieurs variantes. Ahraf. Loin de faire allusion à la divergence de lecture qui caractérisait les qira'at des compagnons, ces versions consistaient dans diverses formes de lecture qu'avait suscité la vulgate othmanienne du fait de l'inconsistance de la graphie arabe de l'époque et du flottement de l'orthographe et de la langue. Il est d'ailleurs aisé de le constater à la lecture des recensions encore en usage dans le monde musulman, particulièrement à travers les deux recensions, j'ai bien dit recensions, les riwayats et non pas les lectures, de Wash et de Hafs, qui sont les plus célèbres aujourd'hui dans le monde musulman. Voyons de près l'un des hadiths évalués comme authentique par Al-Bukhari, qui le consigne dans son sahih, où cette question est traitée sans réellement recevoir une réponse définitive, sinon que le Coran peut être lu de différentes façons, reconnues, toutes comme étant révélées par Dieu. Le hadith, comme on le verra, ne met pas spécialement l'accent sur la nature de la différence des deux lectures divergentes qui ont été soumises au prophète. Il ne suggère pas non plus une différence de degré entre elles, mais insiste plutôt sur la validité, sur leur validité comme révélation de Dieu. Comme le supposent nombre de traditionnistes, dont l'interprétation qu'ils en donnent, il s'agit donc de hadith, dans ce hadith de moins de différence de forme que de fond, mabna que ma'na. Voici le hadith dont le transmetteur originaire, le calife Omar ibn al-Khattab, est loin d'être le fruit du hasard. Omar était un personnage au caractère souvent associé à la justice et à la netteté. L'on comprend qu'il eut du mal à cautionner deux lectures du Coran. En tant que narrateur, un récit, voilà un récit sur la divergence des lectures qui se veut ainsi résolu. Omar ibn al-Khattab a dit « J'ai entendu Hisham ibn Hakim ibn Hizam réciter du vivant de l'envoyé de Dieu la sourate, la distinction, Al-Furqan. En écoutant sa récitation, je m'aperçus qu'elle récitait avec de nombreuses prononciations différentes de celles que m'avait récité l'envoyé de Dieu, aussi faillis-je l'interrompre dans sa prière. Mais j'attendais qu'il lui fît la salutation finale. Alors, l'empoignant par ses vêtements, je lui dis, qui t'a appris à réciter cette sourate que je viens d'entendre, de t'entendre réciter ? L'envoyé de Dieu, me répondit-il, tu mens, repris-je par Dieu. L'envoyé de Dieu lui-même, après avoir récité la sourate que je viens de t'entendre réciter, je le conduisais aussitôt auprès de l'envoyé de Dieu à qui je dis, ô envoyé de Dieu, je viens d'entendre cet homme réciter la sourate, la distinction, avec des prononciations que tu ne m'as pas enseignées, car c'est toi-même qui m'as fait réciter la sourate, la distinction. Ô Hisham, dit alors le prophète, récite-la. Hisham récita de la façon que je lui avais entendu prononcer. C'est ainsi de l'envoyé de Dieu que cette sourate a été révélée. Puis il me dit, ô Omar, récite-la aussi. Je la récitai de la façon qu'elle m'avait enseignée. C'est ainsi, reprit l'envoyé de Dieu, qu'elle a été révélée. Puis il ajouta, le Coran a été révélé avec 5 prononciations différentes. Récitez-les de la façon qui vous est le plus facile. Donc, il y a d'autres hadiths aussi attribués à Ubay ibn Ka'b, notre compagnon du prophète, sur le même sujet. C'est à propos de deux lecteurs qui étaient de passage dans la mosquée de Médine pour accomplir leur prière canonique. Non satisfait de leur lecture, Ubay s'est rendu également pour cette même raison auprès du prophète qui, après avoir entendu la lecture de chacun, les valida toutes. Voyons maintenant de près les compagnons aux lecteurs divergentes. Il s'agit toujours ici de lecteurs, de qira'at, et non pas de recensions. Nous nous bornerons dans ce qui suit à quelques lectures divergentes entre les compagnons du prophète qui sont bien connus dans le milieu des qira'at. La première, c'est celle de Ibn Mas'ud, la plus souvent citée, parce que préservé longtemps après la Vulgate haussmannienne, c'est bien sûr la lecture d'Ibn Mas'ud, l'un des lecteurs préférés du prophète. Sa lecture a d'ailleurs fait une dernière apparition au IVe siècle, XIe, à Bagdad, proclamée par une portion de la population musulmane de cette ville qui fut violemment combattue par les autorités abbassides à l'instigation des zélateurs hanbalites. Ibn Mas'ud lisait différemment nombre de versets dans ceux-là. Voilà quelques manuscrits de cette, du 19e siècle. Vous voyez, c'était à l'époque, on écrivait de sa propre main un acte de foi, un Coran pour le laisser ou pour le faire un don à une mosquée. Donc c'était pas tout à fait, cette époque-là, c'était pas tout à fait aussi précis. Vous voyez, là, il manque un mot, l'as, ou espace, le mot est répété. Voilà. Arrivons maintenant à la lecture de Ibn Mas'ud. Je vais survoler quelques passages. Au lieu de, par exemple, la ya'jubu anhum mithqal dharra, le poids d'un atome ne lui échappe ni dans les cieux ni dans la terre, il lit mithqal namla, le poids d'une fourmi. Au lieu de wasjudi warqa'i ma'arraki'i, ô Myriam, Marie, resserre-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent, Ibn Mas'ud lit, fils sage, dit, resserre-toi avec ceux qui se prosternent. La sourate Al-Asr, qui compte 4 versets, totalise seulement 3 chez Ibn Mas'ud. Et malgré ce nombre de versets enrichis d'adjonctions dans celui-ci. وَإِنَّهُ فِيهِ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ par l'instant, Al-Asr, dans les temps perdus, et il le restera jusqu'à la fin des temps. Ce passage n'existe pas dans la Vulgate actuelle. Ces dernières lectures qui font donc place à un passage supplémentaire dans une sourate aussi petite est évidemment loin d'intégrer les lectures admises auxquelles il fait allusion dans le hadith. Mais la singularité la plus marquante dans le Coran d'Ibn Mas'ud consiste dans l'absence de l'ouvrante, la Fatiha, la perle du Coran, et des deux dernières sourates, les Mu'awwidhatain, les protectrices, la 113e et la 114e. Ibn Mas'ud tenait ces sourates pour des propos prophétique. D'une certaine manière, on peut dire qu'Ibn Mas'ud ne faisait que respecter son principe selon lequel rien qui n'est du Coran ne doit y figurer. Autrement dit, ni introduction, ni désignation de fin de sourate ou de leur début. Ibn Mas'ud disait « Débarrasser le Coran de tout ce qui n'y figure pas à l'origine, n'y émêlez rien d'étranger. J'arridu le Coran, la talbisu bihi ma laysa minhu. » Et d'ailleurs, le fameux verset « Cher aux sophies et théosophes, les hauts théosophes, tout comme aux philosophes, les morochtes qui tendaient à spéculer sur son sens pour favoriser leur position idéologique, n'opposerait plus autant de problèmes de compréhension s'il était compris selon la lecture des Ibn Mas'ud. En effet, celui-ci, au lieu de « Ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa ar-rasikhuna fil 'ilmi yaqulun » mais nul autre que Dieu ne connaît l'interprétation du livre, ceux qui sont enracinés dans la science disent, Ibn Mas'ud lit, وَإِنْ حَقِيقَةُ تَأْوِيلِهِ إِلَّا عِلَى اللَّهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُ. En réalité, la réalité de son interprétation ne se trouve que chez Dieu, ceux qui sont enracinés et ensuite sans qu'ils sont enracinés. Donc là, la différence est totale. On ne peut plus relier le premier verset au deuxième, comme voulait le suggérer la plupart des théologues de cette période. Et Ibn Mas'ud, dans un autre verset, lit « Yaqdi bil haqqi wa huwa asra'ul fasilin » Dieu rend le jugement juste, il est le plus rapide, au lieu de la Vulgate othmanienne qui lit « Yaqussul haqq wa huwa khayrul fasilin » Dieu fait connaître la vérité. On passe dès lors d'une dimension actuellement d'ordre eschatologique, en lien avec la justice divine, à celle où il est question du récit vrai, compté par Dieu. Et d'ailleurs, même le commentateur Tabari est enclin à préférer cette lecture à celle de la majorité des lecteurs d'autorité. Il écrit « Cette lecture des relations, à notre avis, est la plus exacte. Parfois, la divergence touche autant le sens que la lettre, notamment dans ce verset dictant la pratique à observer dans le... « وَأَقِيمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ Accomplissez pour Dieu le grand et le petit pèlerinage. » Mas'ud lit « L'île Bayt, accomplissez envers la Kaaba le grand et le petit pèlerinage. » Ubay ibn Ka'b, d'après Omar ibn al-Khattab, la lecture coranique de Ubay ibn Ka'b n'est pas très appréciable. Inna la narghabu an kathirin min lahm Ubay. C'est écarté de la Vulgate, parce qu'il s'est écarté de la Vulgate dans plusieurs passages canoniques, dont le plus paradoxal est celui-ci. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres, et ses épouses sont leurs mères. Qui se lit chez Ubay avec cette adjonction. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. Le prophète est plus proche des croyants qu'ils ne le sont les uns des autres. Il est un père pour eux. Et ses épouses sont leurs mères. L'écart de lecture entre compagnons et leurs successeurs. Voici deux exemples de divergences sérieuses entre compagnons et successeurs, les Sahaba et les Tabi'in, qui témoignent d'une codification en cours où prévaut la sacralité de la lettre sur celle du sens. Sa'd ibn Abi Waqqas, l'un des 10 compagnons promis au paradis, contester et rejeter la lecture du verset 106 de la sourate 2 par l'éminent successeur, le juriste de Médine Saïd de Moussaïd. Il s'agit de « Ma nansakh min ayatin aw numsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha » Dès que nous abrogeons un verset ou dès que nous le faisons oublier, nous le remplaçons par un autre meilleur, ou nous le faisons oublier, voilà, c'est ça. Sa réaction est révélatrice de la tension entre les deux hommes sur cette question. Il rétorqua que le Coran n'était pas révélé à Saïd, ni au père de Saïd, mais que la lecture exacte de ce passage coranique est la suivante. Ma nansakh min aya aw nansaha ya Muhammad. Dès que nous abrogeons ou oublions un verset, ô Muhammad. Cette lecture, ajouta-t-il, est confortée par cet autre verset. Ça ne crée aucun falakansa illa masha'Allah. Nous te ferons bientôt réciter le Coran et tu n'oublieras. Et tu n'oublieras que ce que Dieu voudra que te faire oublier. Donc il convient de rappeler que lorsqu'il citait un verset du Coran, le compagnon Anas ibn Malik s'autorisait de remplacer un mot par un autre quand il les estimait semblables. En récitant le verset 6 de la sourate 73, « Inna nashi'at al-layli hiya ashad wat'an wa aqwamu qila » au lieu de « wa aswabu qila ». La prière du début de la nuit est plus intense et permet une attention plus soutenue. Il a suscité l'étonnement de son interlocuteur, un des successeurs, les tabi'i de la première génération, qui lui est en fait... Qui lui ont fait la remarque. Anas ibn Malik lui répondit tout spontanément que ce soit le verbe aswabu, aqwamu ou ahya'u, c'est du pareil ou même. Le grammairien Ibn Jinni ne s'était pas privé de tirer de ce récit la conclusion évidente que c'était le sens ma'na qui importait davantage aux compagnons et non la forme. Or, ce récit qui nous a été relaté par Fakhreddin al-Razi, le théologien Ash'arite, n'a pas donné lieu à la même conclusion qu'Ibn Jinni, pourtant mentionné et aussi par al-Razi. À un intervalle de 2 siècles, ce dernier s'est désolidarisé de l'avis du grammairien en le refutant sous prétexte qu'il s'agit d'une interprétation erronée des lectures des compagnons. La lettre sacralisée est forme textuelle érigée en dogme de foi. Au XIIIe siècle, avec le Hanbali Muwaffaq al-Din ibn Qudama, il est question d'un consensus établi par les savants musulmans relativement au texte coranique. Les musulmans sont unanimes quant à en dénombrer les sourates, les versets, les mots, les lettres. Nulle divergence entre les musulmans et déclarent unanimement mécréant quiconque remet en cause une sourate du Coran, un verset, un mot et une lettre, et ont fait l'objet d'un consensus. Et en cela, il y a une preuve irréfutable que le Coran est constitué de lettres. Alors, je passe la différence entre le chiisme et le sunnisme, je passe à la conclusion.
Non, c'est pour laisser la possibilité de discuter avec la salle.
Je tiens cette bêchure. Donc, voilà, en ce temps lointain, celui des compagnons de la révélation coranique renvoyait à un événement de fraîche date, à des souvenirs encore vivaces dans les mémoires, le rapport au texte coranique était différent de ce qui en adviendra dans les siècles suivants. Toute citation du Coran, qu'elle soit partielle ou complète, ne semblait pas alors impliquer une fidélité scrupuleuse à sa lettre, qui n'était pas non plus alors scrupuleusement fixée. La sacralité du texte ne s'apparentait pas encore au respect révérentiel de sa forme scripturaire, comme cela sera la règle ultérieurement, plus particulièrement à l'époque classique, avec l'implication et le concours des autorités temporelles. Le processus de sacralisation s'avère être le même partout. La sacralité est une affaire du temps qui, par sa durée, contribue à fossiliser la forme aux dépens du sens. Une exception cependant devrait être signalée, bien qu'il n'y ait aucune conséquence de quelque nature que ce soit sur cette problématique de la sacralité de la lettre et du sens. C'est la position des mystiques musulmans. Laissons la parole au grand mystique Anifari, 4e siècle, 10e, qui dépeint dans ses dialogues intimes avec Dieu le harf, la lettre, dans toutes les splendeurs de sa négativité. Il m'a dit, Dieu, sache que la science est par-delà la lettre. Ceux qui sont à l'extérieur de la lettre, ce sont ceux-là les gens de la présence. Il m'arrêta et me dit que la nuit est pour moi et non pour le Coran que l'on récite. Tu veux veiller la nuit et tu veux réciter des sections entières du Coran, dans ce cas, tu ne veilles pas, car seul veille celui qui le fait pour moi et non pour une raison déterminée ou pour réciter une partie bien connue du Coran. Celui-là, je le reçois face à face, il se tient debout par ma subsistance, ne souhaitant rien ni pour moi, ni de moi, ni pour moi. Si je veux lui parler, je lui parlerai, et si je veux lui faire comprendre quelque chose, je lui ferai comprendre. Merci.